Des hommes sans femmes. Le téléphone me réveilla peu après 1 heure du matin. La sonnerie d'un téléphone en pleine nuit, c'est toujours brutal. Cela peut faire penser à quelqu'un qui essaierait de démolir le monde à l'aide d'une lourde barre de fer. En tant que membre de l'espèce humaine, il fallait que j'y mette un terme. C'est pourquoi je quittais mon lit, me dirigeais vers le salon et soulevait le combiné. La voix grave d'un homme m'informa qu'une femme avait quitté notre monde à tout jamais. Le possesseur de cette voix était le mari de cette femme, du moins se définit-il ainsi. Sa femme avait mis fin à ses jours mercredi de la semaine précédente, dit-il. Et de toute manière, il voulait me faire part de cette nouvelle. De toute manière. Dans ce que j'en entendis, pas la moindre émotion n'était perceptible autour de sa voix. Il parlait en style télégraphique, sans faire de pause entre les mots, une pure annonce, un fait brut, point. Que devais-je lui répondre? Il fallait que je dise quelque chose, mais les mots ne me venaient pas. Il y eut un long silence, comme si en plein milieu d'un chemin sur lequel nous nous tenions tous les deux, une fosse profonde s'était ouverte et que nous cherchions à la fouiller du regard. Voilà à quoi ressemblait ce silence. Puis sans ajouter un mot, celui qui m'avait appelé coupa la communication. Délicatement, comme quand on pose sur le sol une œuvre d'art fragile. Tel que j'étais vêtu alors, un t-shirt blanc et boxer bleu, je restais figé un moment, le combiné inutilement serré dans la main. Comment me connaissait-il? Je n'en avais pas la moindre idée. Peut-être était-ce sa femme qui avait mentionné mon nom, parlant de moi comme de son ancien amoureux. Mais pour quelle raison? Et comment avait-il eu mon numéro de téléphone? Il ne figure pas dans l'annuaire. Et surtout, pourquoi moi? Pourquoi fallait-il que son mari prenne la peine de m'appeler pour m'apprendre qu'elle n'était plus? J'avais du mal à imaginer qu'elle l'avait expressément demandé comme une dernière volonté. Notre relation était très ancienne, et depuis que nous nous étions séparés, je ne l'avais jamais revue. Nous ne nous étions jamais téléphonés. Tout cela importait peu au fond. Le problème était que l'homme ne m'avait pas donné la moindre explication. Il avait sans doute pensé qu'il devait me dire que sa femme s'était suicidée, et il s'était débrouillé pour obtenir mon numéro de téléphone personnel, mais il avait jugé qu'il était inutile de me donner plus de détails. Il semblait ainsi m'avoir délibérément placé à égale distance d'un savoir et d'un non-savoir. Pourquoi? Dans le but de me faire réfléchir à quelque chose? Mais à quoi? Je n'en savais rien. Sauf que je voyais de plus en plus de points d'interrogation, comme un enfant qui, à l'aide d'un tampon en caoutchouc, s'amuserait à en imprimer partout au hasard sur son cahier. Je n'avais donc pas la moindre idée de la raison pour laquelle elle s'était suicidée, et j'ignorais la façon dont elle s'y était prise. Aurais-je voulu le savoir que je n'avais aucun moyen d'y parvenir? Je ne savais même pas où elle habitait, ni qu'elle était mariée. Bien entendu, j'ignorais son nom marital. L'homme qui m'avait appelé ne s'était pas présenté. Depuis combien de temps était-il marié? Avait-il un enfant ou plusieurs? Je tins cependant pour certain ce que l'homme m'avait dit au téléphone. Je n'éprouvais pas de suspicion. Après notre séparation, elle avait continué à vivre dans ce monde. Elle était sans doute tombée amoureuse. Elle s'était mariée. Et puis mercredi dernier, pour une raison que j'ignorais, en utilisant je ne sais quel moyen, elle avait mis fin à ses jours. De toute manière, sa voix trahissait quelque chose comme un lien très fort avec le pays des morts. Dans le grand silence de la nuit, j'avais pu entendre la vigueur de cette attache. J'avais pu discerner la tension d'un fil étiré à l'extrême et ses scintillements. En ce sens, et en admettant qu'il y eût de sa part une intention, il avait bien choisi son moment en m'appelant à 1 heure du matin. À 1 heure de l'après-midi, l'impression aurait sûrement été différente. Je finis par reposer le combiné sur son socle et retournai me coucher. Ma femme s'était éveillée à son tour. Qu'est-ce que c'était ce coup de téléphone? Quelqu'un est mort? Demanda-t-elle. Non, personne n'est mort. C'était un faux numéro, répondis-je d'une voix volontairement ensommeillée et traînante. Bien entendu, elle ne me crut pas. Il y avait dans ma voix aussi quelque chose qui appartenait au pays des morts. L'ébranlement que provoque une mort tout juste advenue est très contagieux. Transmis par la ligne du téléphone, ces minuscules tremblements vont modifier la résonance des paroles et faire vibrer le monde par un phénomène de synchronie. Mais ma femme ne dit rien de plus. Allongée dans l'obscurité, l'oreille tendue vers le silence, nous nous absorbâmes dans nos pensées respectives. Parmi les femmes avec lesquelles j'avais été lié jusqu'à présent, elle était donc la troisième à avoir choisi une mort volontaire. À bien y réfléchir, ou plutôt non, sans vraiment avoir besoin d'y réfléchir, c'était un pourcentage particulièrement élevé. J'avais de la peine à le croire. Notamment parce que je n'avais pas eu de relation amoureuse avec un si grand nombre de femmes. Je ne comprenais absolument pas pour quelles raisons ces femmes encore jeunes se supprimaient ainsi, l'une après l'autre. Pourquoi fallait-il qu'elles se suppriment? Cela n'avait sans doute rien à voir avec moi. Je ne croyais pas être impliqué. Néanmoins, intérieurement, j'étais persuadé qu'elle m'avait attribué un rôle de témoin ou de chroniqueur. Par ailleurs, comment dire, cette troisième femme, que je nommerai simplement M, n'était pas du tout, à mon avis, du genre à se suicider. Et puis on pouvait penser que M aurait été gardée et protégée par les robustes marins du monde entier. Je ne peux pas décrire précisément quelle sorte de femme était M, ni où et quand nous nous étions connus, et ce que nous faisions ensemble. Je suis désolé, mais pour parler clairement, avec elle, les choses sont compliquées. Et ces problèmes risquent d'atteindre aussi les personnes de son entourage encore vivantes. Je ne noterai donc ici que des faits se rapportant à un temps déjà ancien, durant lequel j'ai entretenu avec M des relations très étroites, avant que nous ne nous séparions pour certaines raisons. En fait, M est une femme que je considère avoir rencontrée lorsque j'avais 14 ans. Non pas que cela se soit passé réellement, mais c'est en tout cas ce que j'aimerais poser comme hypothèse. Nous nous étions rencontrés lorsque nous avions 14 ans, dans une salle de classe. Plus exactement, durant un cours de biologie. Il était question d'ammonites ou de coelacanthes, ce genre de choses. Elle était assise à côté de moi. J'avais oublié ma gomme, et quand je lui demandais si elle pouvait me prêter la sienne, elle la coupa en deux et m'en donna une moitié, avec un grand sourire. Instantanément, je tombais amoureux. L'expression est à prendre au pied de la lettre. C'était la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Du moins, le pensais-je alors. Voilà comment j'aimerais envisager l'existence de M. Comment j'aimerais qu'ait eu lieu notre toute première rencontre, dans une salle de classe, au collège. Par l'entremise muette, mais néanmoins écrasante des ammonites et des coelacanthes. Imaginer les choses ainsi rendrait toutes sortes de faits bien plus logiques et bien plus simples. À 14 ans, doté d'une santé en quelque sorte toute neuve, j'entrais bien entendu en érection chaque fois que soufflait le vent chaud de l'ouest. C'était l'âge qu'il voulait. Mais elle ne provoquait pas d'érection chez moi. Elle emportait facilement sur tous les vents d'ouest, pas seulement ceux d'ouest. Elle était si belle qu'elle éclipsait tous les vents soufflant de tous les horizons. Devant une fille d'une perfection pareille, pouvais-je avoir quelque chose aussi moche qu'une érection? C'était la première fois de ma vie que je rencontrais une fille qui faisait naître en moi pareil sentiment. Voilà ce que je ressentis quand je vis M pour la première fois. Cela n'eut pas lieu réellement, mais il aurait été logique que cela se passe ainsi. J'avais 14 ans, elle avait 14 ans. Juste le bon âge pour une telle rencontre. Nous aurions dû vraiment nous rencontrer de cette façon. Ensuite, pourtant, en un clin d'œil à peine, M disparut. Où avait-elle bien pu aller? Je l'avais perdue de vue. Quelque chose s'était produit, et durant le bref instant où je regardais ailleurs, elle s'en était allée. Elle était là, et puis voilà, soudain, elle n'y était plus. Quelques matelots rusés l'avaient peut-être attiré sur son bateau et entraîné jusqu'à Marseille ou en Côte d'Ivoire. Mon désespoir fut plus profond que toutes les mers qu'ils avaient pu traverser. Plus profond que les océans où se cachent des calamars géants et autres monstres marins. Je m'en voulais terriblement. Je ne pouvais y croire. Que s'était-il passé, alors que M était si importante pour moi, que j'avais eu tellement besoin d'elle, pourquoi l'avais-je quittée des yeux? Par un effet inverse, depuis lors, M fut tout pour moi. Partout, dans tous les lieux, dans tous les temps et dans tous les êtres, j'en étais conscient. Sa moitié de gomme, je l'avais glissée dans un sachet en plastique que je gardais précieusement sur moi. Toujours, comme un talisman, comme une boussole. Avec cet objet dans ma poche, je retrouverais M un jour, quelque part dans ce monde. J'en étais certain. C'était juste qu'un matelot l'avait enjôlé avec des mots doux et attiré sur son grand bateau pour l'entraîner très loin. Elle avait toujours été tellement crédule. Une fille qui n'hésitait pas à couper en deux sa gomme toute neuve et en donner la moitié. Je tentais de retrouver des parcelles d'elle, y compris les plus infimes, à partir de lieux divers, à partir de diverses personnes. Mais naturellement, ce n'étaient que des petits morceaux. Et même si j'essayais de les rassembler, c'était toujours des fragments. Le noyau de son être m'échappait comme un mirage. Sur d'immenses horizons sans bornes, ma quête se poursuivit sans relâche, de Bombay au Cap, de Reykjavik aux Bahamas. Je visitais toutes les villes qui possédaient un port. Mais à peine arrivais-je ici, qu'elle était repartie ailleurs. Un lit en désordre conservait un peu de sa chaleur. Un de ses foulards, ornée de motifs en spirale, était restée accrochée au dossier d'une chaise. Le livre qu'elle était en train de lire gisait ouvert sur une table. Des bas séchaient, suspendus dans une salle de bain. Mais elle n'était plus là. Dès que les agiles matelots du monde avaient senti mon arrivée, ils s'étaient hâtés de l'emmener et de la cacher. Bien entendu, je n'avais plus alors 14 ans. J'avais bruni. J'étais devenu robuste. Ma barbe avait poussé et je savais différencier une métaphore d'une comparaison. Mais une part de moi avait toujours 14 ans, et la part de 14 ans éternellement logée en moi attendait patiemment que le doux vent de l'ouest caresse mon innocent pénis. Là où il soufflerait se trouverait sans doute M. Voilà ce qu'était M pour moi. Elle n'était pas une femme à s'installer dans un lieu en particulier. Mais elle n'était pas non plus du genre à mettre fin à ses jours. Je tente de noter ici quelque chose qui n'a sans doute pas de réalité. Mais vouloir écrire quelque chose dépourvu de substance, c'est comme espérer un rendez-vous avec quelqu'un sur la surface cachée de la Lune. Tout est sombre. Il n'y a aucun repère. Les espaces sont trop vastes aussi. Ce que je veux dire, c'est que M était la femme dont j'aurais dû tomber amoureux quand j'avais 14 ans. Mais en réalité, je suis tombé amoureux d'elle bien plus tard, et à ce moment-là, elle-même n'avait plus 14 ans, malheureusement. Nous ne nous sommes pas rencontrés au bon âge, comme si nous nous étions trompés de date pour notre rendez-vous. L'heure et l'endroit étaient bons, mais pas la date. À l'intérieur de M, cependant, vivait également une petite fille de 14 ans. Elle existait en elle dans sa totalité, et non pas juste pour une petite partie. Si je scrutais M avec beaucoup d'attention, je pouvais apercevoir, par intermittence, les allées et venues de cette fillette en elle. Lorsque nous nous étreignions, il y avait dans mes bras tantôt une femme, tantôt une fillette. Elle effectuait toujours des allers-retours selon une temporalité qui lui était propre, et je l'aimais ainsi. Dans ces moments-là, je la serrais si fort que je lui faisais mal. Sans doute l'enlaçais-je trop vigoureusement. Mais je ne pouvais faire autrement. Je ne voulais pas qu'elle s'en aille. Pourtant, bien sûr, vint le temps où je la perdis. Tous les marins du monde se tenaient là, en embuscade. Et moi, tout seul, j'étais incapable d'assurer sa garde. On est bien obligé, à certains instants, de regarder ailleurs. Il faut bien dormir, aller aux toilettes, prendre un bain, émincer des oignons, décortiquer des haricots, vérifier la pression des pneus de la voiture. Et voilà comment nous avons été séparés. Ou plutôt, comment elle est partie. Il y avait certes les ombres des marins. Des ombres épaisses, autonomes, qui semblaient ramper le long du mur de l'immeuble, déliées de toute attache. Baignoire, oignons, pression des pneus, ces ombres n'étaient rien de plus que des fragments de métaphores punaisés un peu partout. Elle partit, et personne ne sait combien je souffris alors, et dans quel abîme je sombrais. Personne ne peut le savoir. Moi-même, j'ai du mal à m'en souvenir. Quel était le degré de ma souffrance? Moi-même, j'ai du mal à m'en souvenir. Quel était le degré de ma souffrance? Jusqu'à quel point mon cœur était-il endolori? Ce serait bien si dans notre monde existait un appareil capable de mesurer la souffrance, simplement, exactement. Au moins, ces mesures chiffrées demeuraient par la suite. Un petit appareil que l'on appliquerait sur la paume de la main, ce serait très bien. J'y pensais chaque fois que je vérifiais la pression de mes pneus.